Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver, certains depuis quelques semaines après le week-end d'église que nous avons eu avec certains la semaine dernière. Je ne sais pas si tout le monde est malade, comme beaucoup l'ont été pendant cette semaine. Mais c'est une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour partager ces moments, ces temps de louange que nous avons eus et ces temps autour de la parole. Nous continuons ce matin notre série sur l'Épître aux Éphésiens. Je ne sais pas si vous l'avez relu dans ces semaines, comme nous démarrons cette série. Je vous encourage à le faire. C'est l'une des Épîtres et peut-être l'un des livres de la Bible les plus riches qu'il y ait. Et je pense peut-être le plus dense, c'est. Je pensais à ça en préparant. En ce moment, on démarre une série avec les jeunes sur le livre des juges, où là, ça peut se lire presque d'une traite, et il y a des histoires très visuelles à lire, et ça peut se lire d'une traite. L'Épître aux Éphésiens, ça vaut le coup d'y aller calmement et de prendre son temps, peut-être de prendre un crayon avec sa Bible, et puis de prendre son temps, de s'arrêter sur les choses qu'on ne comprend pas, mais c'est une épître qui a une telle richesse pour nos vies dans tous les domaines. Comme dans beaucoup d'épîtres de Paul, ça commence avec des premiers chapitres plus théologiques, plus fondamentaux sur notre foi, et puis ensuite des aspects plus pratiques sur les conséquences pour notre vie, parce qu'il y a toujours des conséquences concrètes dans notre vie aux réalités les plus théologiques, on pourrait dire, les plus fondamentales de notre foi. Et ce matin, nous voyons dans le chapitre 2, nous allons voir Éphésiens 2, versets 1 à 10. Et c'est un passage très connu, en particulier le verset 8, vous l'avez probablement entendu de nombreuses fois. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. En particulier après avoir fêté les 500 ans de la Réforme, c'est un verset qui a été rappelé parce que ça a eu un rôle central au moment de la Réforme, de se dire. Nous ne sommes pas sauvés par les pénitences, par les pèlerinages et tout un tas de rituels qui avaient été ajoutés, mais c'est par grâce, c'est un don de Dieu si nous sommes sauvés. Et nous allons voir ensemble ce matin à quel point c'est vrai et à quel point l'image que Paul nous présente ici va au-delà de ça. C'est un nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Bien sûr, il nous présente le pardon des péchés comme un don de Dieu, mais il nous présente tout un monde nouveau qui s'ouvre à nous. Il présente d'abord ce que j'appelle ici l'ancien monde, le monde opposé à Dieu, et il nous présente ensuite le nouveau monde, celui que Dieu nous présente au travers de ce qu'il a fait pour nous. Et on verra justement ces deux parties, cet ancien monde et ce nouveau monde, et nous verrons ensuite quelle est notre place dans ce plan merveilleux. Alors ça peut sonner comme un programme politique, certains veulent nous vendre un nouveau monde et critiquer un ancien monde, mais je crois que ce que Paul nous présente ici va bien au-delà de ça, et le plan merveilleux de Dieu va bien au-delà de tout ce qui pourrait nous être promis ailleurs. Alors lisons ensemble Éphésiens 2, versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions par nous-mêmes, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifesté en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une œuvre, par une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Jusqu'ici notre lecture. Donc dans ces premiers versets, les versets 1 à 3, Paul nous présente cet ancien monde, ce monde où nous étions morts par nos fautes, par nos péchés. Et n'allez pas entendre par là que c'est un ancien monde dans un sens chronologique, ce n'est pas un monde qui serait révolu et qui n'existerait plus. Il est tout autant d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque où Paul a écrit. Mais c'est un ancien monde dans le sens où c'est le monde dans lequel nous vivions tous avant de rencontrer Dieu. Nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, comme il nous le dit au verset 3. Et Paul décrit ainsi l'humanité sans Dieu comme morte. Peut-être que ça peut paraître choquant de décrire tous ceux qui seraient non-chrétiens comme morts. Dans quel sens un non-chrétien serait moins vivant ou plus mort qu'un chrétien? Dans quelle mesure le chrétien serait plus vivant? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Alors dans un sens, être opposé à Dieu peut avoir des conséquences tout à fait littérales. Quand on entend parler de toutes les guerres, on peut penser en ce moment à la Syrie, au Yémen, quand on voit toutes les famines qui sont souvent liées à l'endurcissement du cœur de l'homme et à son égoïsme, quand on voit toutes les manières dont l'homme, qui se dit moderne et civilisé, respectueux de la vie humaine, est capable de diffuser la mort partout autour de lui, il y a parfois un sens littéral. Mais Paul ici s'exprime d'une manière différente. Quand il dit « vous étiez mort », il utilise cette image pour dire « vous étiez spirituellement mort dans ce qui compte vraiment, dans votre relation à Dieu, vous étiez mort, vous n'aviez pas la relation avec le Dieu vivant, celui qui apporte réellement la vie ». Et c'est dans ce sens que être sans Dieu, c'est être mort. Et dans ces premiers versets, il décrit ce monde, cet ancien monde, ce monde spirituellement mort. Et il décrit en particulier trois facettes, trois éléments qui influencent, qui conduisent ce monde, cet ancien monde. Le premier, au verset 2, « Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde », ou littéralement « vous marchiez selon le siècle de ce monde ». Et là aussi, suivant les traductions que vous lisez, certaines expressions peuvent paraître plus ou moins opaques. Mais ici, Paul décrit la manière simplement de vivre de notre société, de notre culture, avec toutes les valeurs, toutes les fonctionnements, les libertés, les interdits associés à une société. On veut nous vendre de plus en plus que nous sommes des individus libres de faire nos choix de manière entièrement indépendante, mais nous ne sommes pas parfaitement indépendants du monde dans lequel nous vivons. Personne n'est parfaitement indépendant du monde dans lequel il vit. Et il y a tellement de manières dont une société peut amener ceux qui en font partie à participer à toute forme d'injustice, à vivre d'une manière qui est caractéristique de ce monde opposé à Dieu. Pour donner simplement un exemple, si on pense à ce qu'on peut entendre parfois des méthodes de management de type destructrice pour certaines personnes, où il vaut mieux détruire la personne que de la licencier, parce que simplement ça peut rapporter plus d'argent à l'entreprise. On peut se dire que beaucoup de ces managers ne feraient jamais ça en dehors du monde de l'entreprise. Mais parce qu'il y a une influence, une culture d'entreprise, parce qu'il y a un environnement dans lequel ces choses ont lieu, alors il y a des injustices qui ont lieu et qui sont perpétrées par l'une et l'autre personne de cette culture, de cette société. Et nous ne sommes pas des purs individus qui faisons nos choix de manière complètement indépendante, mais nous sommes influencés par le monde dans lequel nous vivons. Et le deuxième aspect, le deuxième trait caractéristique de ce monde qui s'oppose à Dieu, c'est encore au verset 2, « Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises », ou littéralement, « le principe de la puissance de l'air ». Alors là aussi, on est dans les formulations un peu cryptiques, pas très claires à lire comme ça. Mais en fait, Paul décrit de manière assez claire qu'il parle ici du diable, de Satan qui s'oppose à la volonté de Dieu partout dans ce monde. Et ça peut être un sujet abordé de manière différente suivant les cultures d'église. Certaines églises vont donner une place centrale au rôle du diable dans tout ce qu'il y a de mal dans ce monde. Et si on loupe un examen auquel on n'a pas du tout travaillé, alors c'est le diable qui nous attaque. Et si, sans respecter aucune règle du code de la route, on nous prend notre permis, bah là aussi c'est une attaque du diable. Et peut-être qu'il faut considérer qu'il y a peut-être plus en jeu que simplement le diable dans certaines conséquences dans nos vies. Et à l'inverse, ça peut être la place du diable peut devenir un tabou dont il ne faut pas parler, et que même si nous faisions face à quelqu'un qui serait manifestement possédé par un esprit mauvais, il serait parfois difficile, si ça devient tellement tabou, de dire mais non, peut-être que c'est juste un enjeu psychologique et il ne faut pas y voir le diable partout, et au final on pourrait voir le diable nulle part. Et je pense que Paul touche un équilibre remarquable ici. Non seulement il ne dit pas c'est tout de la faute du diable, précisément ce que je vous décris, c'est qu'il nous manifeste trois aspects différents de ce monde qui s'oppose à Dieu. On a vu la société, on voit maintenant le diable et j'en aborderai un autre juste après. Et en même temps, le diable fait partie de ces trois éléments qu'il présente. Il n'écarte pas l'influence de Satan sur ce monde et de tout ce que ça peut représenter. De la même manière, Pierre, dans sa première épître, nous invite à être vigilants. Il nous dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dans le monde dans lequel nous vivons, cet ancien monde, le diable a encore une influence. Bien sûr, Christ a remporté la victoire à la croix. Dans le nouveau monde, le diable n'a plus aucune place, plus aucune force, plus aucune victoire à remporter. Mais nous devons être à la fois ni effrayés ni naïfs, ni effrayés parce que nous appartenons à celui qui a remporté la victoire, et ni naïfs parce que nous sommes toujours dans un monde où le diable agit, et toute la Bible nous invite à être vigilants et nous accrocher par la foi à ce Dieu qui a remporté la victoire, et ne pas nier la présence du diable dans ce qu'il pourrait y avoir autour de nous. Et enfin, le troisième aspect, au verset 3, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions nous-mêmes, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. La troisième source du problème dans ce monde, c'est tout simplement nous. Nous sommes une part du problème. De manière fameuse, un journal a envoyé cette question à un certain nombre d'intellectuels en leur posant la question « Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» en leur demandant de donner leur analyse du problème et qu'est-ce qu'il devrait être fait. Et de manière fameuse, un théologien catholique nommé Chesterton a répondu tout simplement « Cher journaliste, qu'est-ce qu'il ne va pas dans le monde ? Moi, cordialement. » Et je pense que ça touche quelque chose de profond. Nous sommes une part du problème. Nos désirs, notre volonté qui s'oppose à Dieu fait partie du problème. Et nous pouvons pointer du doigt vers l'extérieur et dire c'est la faute de la société, c'est la faute du diable. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes partie prenante de la situation. Nous sommes partie prenante de cette opposition à Dieu. Mais la formulation de Paul peut nous poser des questions. Il finit en disant aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu ? Et ça peut paraître difficile, dans quelle mesure nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu, ce Dieu d'amour. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait permettre que nous soyons par nature destinés à subir sa colère? Alors je pense qu'il est important de noter qu'on ne doit pas mélanger entre notre colère et la colère de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui perd son calme ici. Quand il est parlé de la colère de Dieu, il s'agit du jugement juste et universel de Dieu, et il le fait d'une manière complètement différente que ce que nous, imparfaitement, nous pourrions faire si nous le faisons sous le coup de la colère. Il s'agit du jugement dernier que Dieu prépare suivant sa parfaite justice. Et d'une certaine manière, avec tout ce que ça a de difficile, cette colère est une bonne nouvelle aussi, parce que lorsque nous voyons toutes les injustices, toutes les souffrances de ce monde, savoir qu'il y a un Dieu juste qui jugera, lorsque nous voyons tellement de formes d'impunité face au péché, à la souffrance et aux violences perpétrées, il est bon de se souvenir que nous avons un Dieu tout-puissant qui jugera de manière parfaite. Mais ici, il ne nous dit pas simplement qu'il jugera, comme on a parfois l'impression de l'entendre, il ne jugera pas simplement Hitler et Staline et ceux qui sont vraiment les méchants. Ici, la colère de Dieu est destinée à tous les hommes qui, par nature, s'opposent à Dieu. Par nos actions, nous nous opposons à Dieu et nous sommes dignes de son jugement. Alors là aussi, l'expression « par nature » pourrait être ambiguë, comme si on le subissait simplement, le fait d'être humain nous amènerait à mériter la colère de Dieu. Ce n'est pas ce qui se joue ici. Paul nous explique que par nos actions, par notre manière de vivre, nous sommes tous amenés à désobéir à Dieu et à mériter cette condamnation qui est d'abord tombée sur Adam, le premier à pécher. C'est ce qu'il explique en Romains 5:12. Par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Parce qu'Adam a péché, la mort est entrée dans le monde, mais nous ne subissons pas simplement le jugement qui est tombé sur Adam, mais par notre propre désobéissance, nous ratifions cette condamnation. Nous montrons que nous aussi, nous méritons cette colère de Dieu, ce jugement de Dieu. Alors peut-être que ce tableau peut paraître un petit peu sombre, comme ça, dès le matin, de démarrer avec une description de la réalité du monde si sombre, mais je crois que c'est important d'avoir les idées claires sur les enjeux spirituels qu'il y a dans ce qui ne va pas dans ce monde. On peut avoir plein de solutions qui semblent être des bonnes solutions, mais qui sont en fait des demi-solutions si elles ne tiennent pas compte de cette réalité. Certains ont longtemps cru, et peut-être c'est moins cru maintenant, mais que si tout le monde avait un certain niveau d'éducation, alors le monde irait mieux. Si il n'y avait plus de frontières et que chacun pouvait se déplacer librement, alors le monde irait mieux. Si on s'unissait tous pour combattre la destruction de la planète, alors tout irait mieux. Si simplement il y avait moins d'inégalités, alors tout irait mieux. Et ce n'est pas pour mépriser ces choses-là. Il y a tellement de choses à faire pour lutter contre les injustices et agir pour le bien de ce monde et de tous les êtres humains qui en font partie. Mais si nous ne tenons pas compte que premièrement il y a un enjeu de rébellion contre Dieu, alors nous passerons forcément à côté de la solution. Si nous avons besoin d'être sauvés, ce n'est pas d'être premièrement sauvés des inégalités ou des diverses injustices, mais nous avons besoin d'être sauvés de manière générale de cette société qui s'oppose à Dieu, de ce diable qui combat tout ce que Dieu fait, et de nos propres désirs en nous-mêmes qui s'opposent à Dieu. Si nous avons besoin d'être sauvés, ce n'est pas parce que il y a un grand méchant Dieu là-haut qui veut manifester sa colère. Si nous avons besoin d'être sauvés, c'est que dans ce monde, face au diable et face à nos propres désirs, il y a besoin d'être sauvés par un Dieu juste et bon. Dieu n'est pas notre problème ici. Il est la solution par rapport à tout cet ancien monde qui est notre problème auquel nous faisons face. Et c'est justement comme ça que Paul nous amène à tourner nos regards vers ce nouveau monde. À partir du verset 4, il commence avec « Mais Dieu ». Et c'est toute cette différence qu'il y a entre cet ancien monde et ce nouveau monde. Ce qui caractérise le nouveau monde, c'est ce « Mais Dieu ». Ce qui caractérisait l'ancien monde, c'était nos désirs, le diable et la société, mais dans ce nouveau monde, c'est d'abord Dieu qui est le début et la fin de tout ce qui caractérise cette nouvelle création. Relisons ensemble les versets 4 à 9. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Et il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce monde nouveau est caractérisé par la bonté et l'amour de Dieu. La transition n'est pas... Il y avait des méchants hommes, et puis certains ont été un petit peu meilleurs. Ils ont fait des efforts et ils ont réussi à susciter un peuple qui dépasse les réalités qui étaient les nôtres. Non, la transition, c'est les hommes étaient rebelles, étaient méchants, mais Dieu a agi et il a manifesté son amour. C'est ça la transition entre cet ancien et ce nouveau monde. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas séparé entre des méchants non-chrétiens et des gentils chrétiens. Le monde tel que nous le connaissons est séparé entre des méchants non-chrétiens et des méchants chrétiens qui ont réalisé qu'ils avaient besoin du secours de Dieu. Parfois, on entend que la religion, c'est pour les faibles. Oui, je crois. Je crois que, fondamentalement, ma relation avec Dieu est basée sur le fait que j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de secours, que par moi-même, je ne serais pas bon, je ne serais pas à la hauteur des enjeux qui sont les miens et que j'ai besoin que Dieu vienne à mon secours. Et simplement, je crois que ce n'est pas simplement les chrétiens qui ont besoin de ce secours, mais nous avons tous, en tant qu'êtres humains, besoin de ce secours de Dieu. Nous ne sommes pas la solution à nos problèmes. Dieu est la solution à nos problèmes. Nous ne nous sauvons ni de ce monde, ni de nous-mêmes. C'est Dieu qui vient manifester par son amour qu'il nous sauve de ce monde et qu'il nous sauve de nous-mêmes. Et c'est tout ce plan merveilleux de salut qu'il nous présente. Et je ne sais pas si vous avez noté la place de Jésus dans ce texte. D'une certaine manière, la croix n'est pas mentionnée, mais elle est partout. Je vous relis les versets 5 et 6. « Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Lorsque Paul résume ce qu'est un chrétien, fondamentalement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Vous étiez morts, vous êtes ressuscités et maintenant vous régnez au ciel avec Christ. » En fait, Paul est en train de décrire ce qu'est un chrétien en retraçant le parcours de Jésus, tout simplement. De la mort à la résurrection, à son règne maintenant au ciel. Et c'est fondamental dans la manière dont est présenté dans tout le Nouveau Testament ce qu'est être chrétien et ce qu'est l'Église. Nous entrons et nous vivons dans cette vie nouvelle, dans ce monde nouveau, en vertu de ce que Jésus a fait pour nous. Notre identité est entièrement définie par ce que Jésus a fait pour nous et par qui est Jésus. On a déjà vu ensemble le chapitre 1 où toute la majesté et la grandeur de qui est Christ et de ce qu'il a fait est pleinement dévoilée. Et en fait, Paul nous amène à considérer qui nous sommes au travers du premier chapitre, au travers de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il dit ailleurs en Galates 2. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Notre vie nouvelle est une vie entièrement définie de A à Z par Jésus, par ce qu'il a fait pour nous et par qui il est aujourd'hui. On pourrait résumer que ce monde nouveau est défini de A à Z par Dieu et que notre place dans ce monde nouveau est définie de A à Z parce que Jésus a fait pour nous, par qui il est et ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie d'être sauvé? Est-ce que l'enjeu est simplement de recevoir le pardon de nos péchés pour éviter la colère à venir? Bien sûr, il y a ça, mais ce que Paul nous présente va, à mon avis, bien au-delà de ça. Et il le résume avec ce dernier verset, le verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Clairement, il ne s'agit pas simplement d'échapper à la colère de Dieu. Être sauvé, c'est vivre cette résurrection. C'est entrer dans cette vie nouvelle pour trouver notre place dans ce monde nouveau, ce monde défini par Dieu, ce monde défini par ce que Jésus fait pour nous et ce qu'il est pour nous. C'est terrible si on retient de ce passage que nous sommes simplement sauvés par grâce et alors ça ne change pas grand-chose pour nous simplement d'attendre la fin et de pouvoir entrer dans le paradis sereinement. Parce que c'est bien plus grand ce qui nous est présenté ici. Dès maintenant, nous entrons dans cette vie nouvelle qui change tout pour nous. Le salut par grâce, ce n'est pas « je crois en Jésus et je viens de temps en temps à l'église et puis un jour je crois que j'irai au paradis ». C'est au contraire le fait de mettre pleinement sa confiance à Dieu pour toute notre vie, pour que notre vie nouvelle soit riche d'œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Si on prend le découpage de l'épître aux Éphésiens, dans les chapitres qui viennent ensuite, il y a tout un tas de choses qui caractérisent cette vie nouvelle. Il nous décrit tout ce que, d'une certaine manière, tout ce qu'on doit faire dans cette vie nouvelle, tout ce qui doit être vécu, tout ce qui ne doit pas être vécu dans cette vie nouvelle. Et si on aurait une manière déformée de voir la grâce comme simplement recevoir gratuitement le pardon de nos péchés, point final, alors on pourrait avoir l'impression que Paul est incohérent de nous dire à la fin tout ce qui doit être changé, tout ce qui doit être vécu dans notre vie. Mais nous devons bien lire ce qu'il nous dit dès le chapitre 2. Vous êtes sauvés par grâce pour entrer dans cette vie nouvelle qui change tout, qui amène à redéfinir toute votre existence par rapport à l'influence qu'avait la société, qu'avait le diable et qu'avaient vos propres désirs sur votre propre vie. Vous entrez par grâce dans cette vie nouvelle qui amène à tout redéfinir par ce que Dieu a fait pour vous et par qui il est. Alors, en conclusion, les choses sont en fait à la fois extrêmement simple et tout à fait grandiose. Les choses sont simples. Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, c'est un don. Il suffit de saisir ce que Dieu a fait pour vous, de mettre votre confiance en Dieu. Dieu a tout accompli et il n'y a pas à manifester nos mérites pour prouver que nous pourrions atteindre et avoir accès à cette vie nouvelle, à ce monde nouveau. Et en même temps, c'est grandiose parce que ça change tout. Dès maintenant et pour l'éternité, nous entrons dans un monde nouveau qui change tout pour aujourd'hui et qui change cette relation que nous créons maintenant avec Dieu nous accompagnera pour l'éternité. Alors que ce soit réellement notre expérience aujourd'hui, ce matin, nous verrons donc dans les semaines qui viennent à quoi ressemble cette vie nouvelle et nous entrerons plus dans les détails sur ces enjeux de décrire cette vie nouvelle, mais dès maintenant, nous voulons saisir pleinement ce salut, pas un demi-salut où nous saisirions à minima une forme de pardon des péchés, mais que nous puissions vivre un salut plein et entier. Alors je vais inviter Pierre-Emmanuel pour jouer un peu de piano et que ça puisse être un temps de réponse de votre part de manière silencieuse. On va avoir un temps de silence et je terminerai par la prière, mais peut-être que pour certains d'entre vous, toutes ces choses sont absolument étrangères et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je ne me suis jamais posé la question d'être sauvé ou ce genre de choses. Peut-être que c'est l'occasion de réaliser que c'est aussi simple que ça. Il suffit de mettre sa confiance en Dieu, accepter ce qu'il a fait pour nous et le salut est accessible dès aujourd'hui. Et peut-être que pour certains d'entre nous qui avons décidé de suivre Jésus depuis longtemps, nous pouvons nous sentir parfois un petit peu morts, un petit peu encore définis par cet ancien monde et par notre vie. Nous avons du mal à vivre cette communion pleine et entière avec Dieu et sentir que parfois c'est nos désirs qui nous dirigent. Peut-être que c'est les tentations que le diable met sur notre route ou la société qui nous dirige. Et là aussi, que ça puisse être saisi par la foi ce matin, que Dieu veut nous donner cette vie pleine et entière. Tout simplement, en reconnaissant nos fautes et en acceptant ce qu'il a pour nous, que nous puissions saisir ces choses par la foi. Seigneur, merci pour ta grâce incomparable. Merci pour ce don merveilleux. Fais ce miracle encore dans nos vies. Peut-être que pour quelqu'un qui vient de découvrir ton salut, Seigneur, fais cette œuvre merveilleuse de transformation et fais entrer ta vie dans ceux qui te demandent ce salut que tu donnes gratuitement et que dans chacune de nos vies, nous puissions pleinement vivre ton salut, vivre ce pardon des péchés qui nous amène à nous tourner vers toi et chaque jour de notre vie pour l'éternité, à vouloir rester attaché à toi et découvrir encore et encore la grandeur de ton amour pour nous qui dépasse notre infidélité et notre faiblesse et qui nous couvre de ta grâce de tellement de manières, Seigneur. Merci pour le miracle de ton amour pour nous. Amen.